Donc, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on continue notre série sur le prophète Osée. Et aujourd'hui, c'est encore un privilège pour moi de venir vous annoncer la parole de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons débuter le chapitre 9. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 9 premiers versets. Donc Osée 9. Des versets 1 à 9. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires de blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur, est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs iniquités. Il punira leurs péchés. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons encore une fois que le livre d'Osée est une proclamation de la fidélité de Dieu envers un peuple infidèle, envers un peuple idolâtre. Et donc ces versets nous révèlent la sévérité du jugement de Dieu sur l'idolâtrie et l'infidélité d'Israël. Ce texte résonne fortement avec nous aujourd'hui, car bien que nous soyons sous la nouvelle alliance avec Christ, l'appel à la fidélité à notre Dieu et à la repentance reste toujours d'actualité et reste toujours valable. Dieu appelle son peuple non seulement à une relation personnelle avec lui, mais aussi à une vie d'obéissance, loin de faux dieux, loin des idoles et aussi loin du péché. Un faux sentiment de sécurité a prévalu au sein du peuple d'Israël. Le peuple a cherché à jouir de ses richesses et également de sa prospérité. Osée les voit célébrer une fête sainte qui était probablement la fête de la moisson. Cette fête dont on parle dans Exode 23, verset 16, faisait partie des fêtes les plus importantes d'Israël. Et dans ce passage, le prophète annonce le jugement divin sur Israël en raison de son infidélité et de son idolâtrie. Et donc ces versets décrivent les conséquences tragiques de l'abandon de Dieu par son peuple, tout en rappelant les causes profondes de cette rébellion. Donc mon premier point, le point que je vais développer, c'est le rejet par Dieu d'un culte qui est corrompu. Donc nous allons, pour ce premier point, nous concentrer sur les 6 premiers versets. Et donc, on voit qu'au début, qu'il y a une fête. On a parlé de la fête des moissons, de la moisson. Et donc la fête a à peine commencé, qui se présente? Le prophète Osée. Mais Osée se joue un peu les troubles fêtes. Il vient un peu comme quelqu'un qui vient pour annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que nous lisons au verset 1, « Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. » Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. Et ce qui attire notre attention ici, c'est « comme les peuples ». C'était une chose pour les Cananéens de vivre dans le péché. C'est une chose pour les païens de baigner dans le péché. Mais pour le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, ce n'était pas un mode de vie à adopter. Pour le peuple saint de Dieu, ce n'était pas un mode de vie à adopter. Et ce début de passage commence par un appel à l'humilité et à la reconnaissance de sa culpabilité. Parce qu'Israël était coupable. Dieu met en garde contre une joie qui n'est pas fondée sur la repentance, mais sur l'idolâtrie et l'infidélité. Le peuple d'Israël, au lieu de se réjouir dans sa relation avec Dieu, se livre à tout type de débauche et à une idolâtrie. Plus encore, plus important, les relations tendues entre Israël et Dieu appelaient plutôt à un deuil au vu des péchés qu'ils ont faits envers leur Dieu. Ce n'était pas un festin ni à une fête, mais c'était un deuil, plutôt à une remise en question de ce qu'ils avaient fait, et non à une fête. Et le prophète Osée qui continue, « De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. » Parce qu'ils se sont prostitués. Ils ont abandonné l'Éternel, mais qu'ils devaient se remettre en question. Ce n'était pas une fête qu'ils devaient avoir. C'était une repentance sincère envers le Dieu de l'Alliance auquel ils avaient rompu l'Alliance. La fête d'Israël était idolâtre, à la fois parce qu'elle mêlait l'adoration du Seigneur à la foi en Baal, et parce qu'elle introduisait des pratiques païennes telles que l'ivrognerie et la prostitution. En raison des actions du peuple, et surtout parce que leur cœur était rempli de toutes sortes de ferveurs religieuses et païennes, Osée s'est écrié « De ce que tu as aimé un salaire impur, dont toutes les aires à blé. » Et ici, le terme « salaire impur » fait plus référence à l'idolâtrie, où Israël se rend coupable de rechercher des bénédictions matérielles. C'est ça qui représente le salaire impur. Des bénédictions qui sont matérielles, symbolisées ici par les produits agricoles comme le blé et comme le vin. Et avec tout cela, ils ont rejeté le Seigneur. Mais le Seigneur, leur Dieu, allait s'y vivre. Le résultat allait anéantir l'esprit de la fête qu'Osée avait interrompue. Nous lisons verset 2. L'air et le pressoir ne les nourriront pas. Et le mou leur fera défaut. C'est-à-dire que les vignes ne répondront pas à leur attente. Tout ce qu'ils ont planté n'allait pas répondre à leur attente, n'allait pas satisfaire leur désir de soif. C'est la même chose comme s'il disait, comme ces hommes ne considèrent que leur estomac ou leur désir, comme ils ne jugent rien d'autre que des provisions, donc l'air et le pressoir ne les nourriront pas. Je les priverai de leur récolte afin qu'ils comprennent qu'ils adorent en vain. Ils adorent en vain des faux dieux, des dieux qui ne leur apporteront rien. Nous avons chanté au début ici, mon seul abri, c'est toi. Ça a tout son sens, mon seul abri. Lorsqu'il neige, lorsqu'il pleut, lorsque le ciel s'obscurcit et qu'on vit des épreuves, des difficultés, vers qui nous courons? C'est qui notre seul abri? C'est qui notre parapluie? C'est qui celui, le Dieu, en qui nous mettons notre espoir? C'est pas dans nos idoles que nous avons personnellement. C'est pas dans nos revenus, dans notre argent, dans notre santé qui est si éphémère, qui peut basculer à tout moment. Mais c'est dans le Dieu de l'Alliance qu'on met notre espoir. Nous voyons donc comment le Seigneur traite les hommes selon leur inconduite. Et sa manière d'agir ici doit être remarquée. Il dit que l'air et le pressoir ne les nourriront pas. Il ne dit pas que les champs seront stériles. Il ne dit pas que les champs, que ce soit la vigne, vont être stériles. Non. Il ne dit pas qu'il en verrait de la grêle ou de la tempête. Mais il dit que l'air et le pressoir ne les nourriront pas. Et de plus, le mou leur fera défaut. C'est-à-dire, quand ils se croient bénis de toute abondance, quand la récolte paraîtra abondante, et quand ils auront déjà par anticipation consommé leur récolte, tout cela ne servira à rien. Car ni l'air et le pressoir ne les nourriront pas. Non, le vin même qu'ils pensaient avoir va les décevoir. Et ça veut dire en effet que même ce vin, cette récolte-là, ne sera pas de bonne qualité, ne va même pas les satisfaire. Il y aura du vin, mais ça ne sera pas ce dont ils auront besoin. L'essence du plan de Dieu était d'exiler son peuple dans les terres d'Assyrie. Nous lisons verset 3, « Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel, Éphraïm retournera en Égypte. » Et cette référence d'Égypte fait plus référer thématiquement à la condition d'esclavage dont Dieu avait délivré ce peuple. Mais ils vont se retrouver en esclavage en Assyrie. Dans ce jugement, le Seigneur accomplira les avertissements donnés par Moïse en Deutéronome 28, les versets 33 et 51, nous lisons. Deutéronome 28, versets 33-51. « Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. » Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. C'est violent ça. Et donc, ces versets-là prédisent la captivité d'Israël dans un pays étranger. Ce qui s'accomplit par les captivités assyriennes, ils allaient se retrouver en esclavage en Assyrie. La nation d'Israël deviendrait un sujet de sarcasme et de moquerie parmi toutes les nations. Ce peuple élu de Dieu allait être l'objet de la risée de tout le monde parce qu'ils ont suivi leur propre voie et ils se sont détournés du Dieu de l'Alliance. Osée poursuit en décrivant comment l'exil assyrien mettra fin à la religion israélite compromise. Apparemment, le grain impur de l'aire de blé avait été offert au Seigneur, de sorte que maintenant, au verset 3 en continu, ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Israël, qui a voulu fuir l'autorité divine en s'adonnant à l'idolâtrie, en s'adonnant à ses propres voies, sera à son tour rejeté par Dieu. Oui. Parce qu'il a voulu suivre ses propres voies. Et Dieu aussi va le rejeter. De plus, ayant corrompu même ses offrandes, le peuple d'Israël ne serait même plus en mesure d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous lisons verset 4. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations. Les libations, c'est l'action de répandre du liquide en sacrifice. Elle ne lui serait point agréable. Il ne prendra plus plaisir à ses offrandes. Lorsqu'ils étaient esclaves en Assyrie, les Israélites pouvaient demander à leur maître du vin pour l'offrir sur un autel de l'Éternel. Mais la réponse était non. Il n'y aurait pas de vin du tout, et encore moins pour les offrandes de remerciement. Ainsi, Israël ne disposerait d'aucun moyen approprié pour rendre grâce à son Dieu. Il ne pourra même pas rendre grâce à son Dieu. Et il en va de même pour le pain sacrificiel, qui doit être offert chaque jour devant le Seigneur. Nous lisons encore au verset 4, « Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs. » Et l'expression « pain de deuil » fait référence à l'interdiction dans Deutéronome 26, des versets 12 à 14, du pain offert par les personnes en deuil ou en contact avec des morts, qui était rendu impur d'un point de vue cérémoniel. Ce pain devenait impur. Et donc, en guise de punition, pour ceux qui avaient commis des actes d'idolâtrie, car leur pain ne sera que pour eux, verset 4. Ce pain-là ne sera pas pour le Seigneur. Ce pain sera uniquement pour eux-mêmes. En d'autres termes, ce pain n'aura plus aucune fonction cérémonielle ni religieuse. Ne sera plus sacrificiel, mais servira uniquement pour remplir des bouches affamées. Avec le rejet de Dieu, de ses offrandes, Israël n'avait plus aucune relation avec son Dieu. Il n'y avait plus de sacrifice. Il n'y avait plus d'offrande, plus de moyens de faire des actions de grâce au Dieu de l'Alliance. Ça veut dire aucune relation avec son Dieu. Il s'était volontairement éloigné de tout signe de grâce et de tout moyen de réconciliation avec Dieu. Tout simplement parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Mais Dieu ensuite les a aussi rejetés. Les offrandes qu'ils pourraient faire à la place de celles fournies par Moïse ne plairaient plus à Dieu et n'entreraient point dans la maison de l'Éternel, comme on le voit au verset 4. Parce que l'invention humaine dans le culte provoque une provocation directe du Dieu Tout-Puissant. Nos idoles, c'est tout un affront envers notre Dieu. Ce qui implique que notre culte doit être authentique et dirigé vers Dieu seul, sans médiateur matériel, ni médiateur visuel, ni objet de toute forme, mais un culte envers le Dieu Tout-Puissant, Dieu seul. À cause de leur adultère, le peuple ira en captivité. Pas littéralement en Égypte, mais en Assyrie. Ce sera comme à l'esclavage connu jadis en Égypte. Le culte syncrétiste rendu à la fois à l'Éternel et aux idoles ne donne satisfaction ni à l'Éternel, mais même ni à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a plus de relation entre eux, entre ce peuple et son Dieu. Ici, Dieu refuse les sacrifices d'Israël. Parce que ces sacrifices sont vides. Ces sacrifices sont hypocrites. L'infidélité et l'idolâtrie ont rompu, ont corrompu tout ce que le peuple pourrait offrir. Le pain, qui symbolise la bénédiction de Dieu, le pain, était devenu une source de souillure. Cela indique l'isolement spirituel d'Israël de la présence divine. Leurs célébrations, leurs adorations ne sont plus acceptées par Dieu à cause de la corruption morale et spirituelle du peuple. Au verset 6, Osée nous montre à quel point le jugement de l'exil est complet. Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Moph leur donnera des sépulcres. Et ici, Osée s'imagine des fugitifs s'évadant vers le sud. Apparaissant en Égypte, c'est là qu'ils seront enlevés. Moph ici, on lit dans certaines versions, on parle de Memphis, qui est la capitale de la basse Égypte, était non seulement célèbre à cause de ses pyramides, mais aussi à cause de ses grands cimetières. Donc, vous imaginez que c'est là où allait s'achever leur vie, dans des cimetières. Après un esclavage qui a représenté la perte de tout ce qu'ils avaient gagné lors de leur délivrance au Moïse, tout cela parce qu'ils avaient grossièrement violé la loi de Dieu, parce qu'ils avaient volontairement fait du mal à leur Dieu. Et cela nous rappelle Romains 6, 23, la première partie du verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les cimetières, que représentent les cimetières, si ce n'est la mort? Les quelques biens qu'ils ont pu emporter avec eux seront perdus. Ce qu'ils ont de précieux, au verset 6, leur argent sera la proie des rances, et les épines croîtront dans leurs tentes. Et le jugement de Dieu est décrit comme irrémédiable. Ce jugement allait arriver. Et nous lisons dans les commentaires de Matthew Henry, qui commente en disant: Israël adorait vraiment ses idoles et leur présentait des offrandes. Il est fréquent de constater que les personnes peu zélées dans la religion ne cherchent en fait qu'à satisfaire leur propre convoitise. Les idolâtres recherchent les récompenses d'ici-bas plutôt que celles promises par Dieu dans l'éternité. Et il continue. Ils se délectent avec les joies de ce monde, n'ayant aucune disposition à se repentir de leurs péchés. Il continue encore. Quand les tâches que nous entreprenons ici-bas occupent nos pensées au point d'en faire des idoles, il est alors normal que Dieu nous révèle notre folie et nous corrige. Chers frères et sœurs, nous sommes de passage ici, dans ce monde. Mais nous marchons vers la Jérusalem céleste. Nous sommes des pèlerins. Tout ce qui nous entoure est éphémère. Est-ce que c'est dans ces choses que nous mettons nos espoirs? Est-ce que c'est dans notre style de vie, dans notre situation familiale, dans nos comptes en banque qu'on met nos espoirs? Parce qu'ils s'effritent. Tout ça est éphémère. Tout ça passera. Mais Dieu, lui, il est éternel. Dieu, il est éternel. Dieu, il est éternel. Et c'est lui notre abri. Et c'est en lui que nous devons mettre toutes nos confiances et marcher selon ses voies. Ne pas être des briseurs d'alliances comme le peuple d'Israël. Mon deuxième point, la justification de la folie des prophètes par Israël. Rappelez-vous la scène dans laquelle Osée 9 est projeté. C'est-à-dire les tourments annoncés par le prophète ne sont pas encore produits. Le peuple était encore sur les aires de blé, essayant de profiter de sa fête qui était quasi religieuse. Et donc, c'est là qu'Osée a délivré son message, mais un message qui dérange. Au verset 7, nous lisons, « Il arrive les jours du châtiment, il arrive les jours de la rétribution. » Ces jours arrivent. Et il insiste. Le temps est venu où les anciennes menaces de Dieu seront mises à exécution. Parce que la patience de Dieu était à son comble. Et le coup de grâce allait bientôt tomber. Compte tenu de ce contexte historique, de la nature, de l'avertissement d'Osée, nous pourrions nous attendre à ce que le peuple d'Israël réagisse comme l'a fait la méchante Ninive dans Jonas. Lorsque le prophète l'a averti du jugement. Mais au lieu de cela, Israël a balayé les avertissements. Israël a ignoré les avertissements d'Osée. Et donc, au verset 7 toujours, il est dit, ils se sont même moqués de lui en disant, le prophète est fou. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire. Et puis, donc, on peut dire aussi que Osée n'est pas le premier des prophètes disant de Dieu à être traité de fou. On a le prophète Jérémie qui a été condamné comme un fou, qui prophétise dans Jérémie 29-26, avant d'être arrêté et mis, comme on dit, au pilori. C'est-à-dire pilori disant un poteau public où quelqu'un est disant condamné. Il a été traité de fou. Lorsque Paul, l'apôtre Paul, déclara la résurrection de Christ, dans Acte 26, verset 24, le gouverneur romain Festus répondit que « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Malgré toute l'ouverture d'esprit qu'elle professe, notre culture séculière et même contemporaine réagit de la même manière. Lorsque la parole de Dieu est prêchée. C'est pas surprenant. C'est qu'on va voir aujourd'hui Dave au métro en train de condamner le péché. Ah mais Dave est fou. Un tel est fou. Et c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent de nous. Qu'on délire. Au verset 8. Osée 9, verset 8, dit du prophète, le prophète, un filet d'oiseleur sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de Dieu. Il serait déjà assez grave que le peuple ait simplement ignoré les messagers de Dieu, mais ils sont allés plus loin en les persécutant activement. En les accusant de conspiration et de soulèvement contre les régimes en place. Un ancien prophète d'Israël a ainsi été accusé devant le roi. Amos 7, verset 10, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. » En conséquence, il fut interdit à Amos de continuer à prêcher au peuple. De même, Jérémie a été jeté dans une citerne profonde, laissé mourir de soif dans la boue pour un crime. Quel crime ? On le voit dans Jérémie 38, verset 6, celui de prêcher le jugement de Dieu pendant le siège de Nabucodonosor. Et c'est notre réalité aujourd'hui, parce que nous devons rendre grâce au Seigneur, parce que nous sommes dans un pays en paix. Parce que dans certains pays, les serviteurs de Dieu sont pourchassés. Ils sont exécutés. Tout simplement parce qu'ils prêchent la bonne nouvelle et condamnent le péché. Gloire à Dieu que nous sommes dans un pays comme le Canada. Jésus a déclaré que cette haine et cette violence étaient la norme, appelant même Jérusalem, dans Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Donc, on ne traitait plus les prophètes seulement de fous, mais ils étaient menacés, exécutés, lapidés. Donc, pour se défendre contre cette accusation, les chefs religieux ont arrêté Jésus, l'ont livré aux païens. Ce n'était pas tout. Et ils ont exigé qu'il soit crucifié. Il leur avait rien fait, Jésus. Et donc, selon Jésus, ce schéma violent se poursuit à l'époque de l'Église. Dans Luc 21, verset 12, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous voulez un peu avoir ce qui se passe en dehors du Canada, on le voit souvent dans les nouvelles, des fois on n'en parle pas. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent même pas manger, qui sont debout dans leurs cellules. Ils ne peuvent même pas s'asseoir ni dormir. Tout simplement parce qu'ils ont prêché l'Évangile. Et raison de plus pour nous d'arrêter de nous plaindre, mais de rendre grâce à Dieu de là où nous sommes et de prier pour ceux qui sont persécutés, pour que le Seigneur les aide, parce que ces épreuves là sont en place pour leur édification aussi, mais en même temps pour notre édification, pour que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur. Le peuple aveuglé par son péché rejettera les avertissements des prophètes. Osée est décrit comme un homme fou, dérangé, en raison de ses paroles qui étaient sévères. Parce qu'il dénonce l'injustice et il dénonce l'idolâtrie. Le peuple ne comprend pas que les réprimandes, c'est comme un enfant. Les réprimandes sont un acte d'amour. On parle souvent aussi de la discipline ecclésiale qui est un acte d'amour. Souvent, c'est perçu comme l'absence d'amour, mais c'est une marque d'amour. Parce qu'on ne veut pas qu'un frère ou une personne quelconque aille dans le mauvais chemin. On veut l'avertir des conséquences du péché, pour ne pas mourir, aller dans un cimetière. Mais on veut ramener cette personne dans le droit chemin et dans l'obéissance à Christ. Le rejet du message de Dieu est un signe de la dureté de cœur, Israël. lorsque nous rejetons la parole de Dieu, cela montre que nous sommes endurcis. Et nous avons besoin que notre Seigneur nous délivre. Mon troisième point, le prophète comme une sentinelle pour le pays. Et donc en répondant aux moqueries de ses auditeurs, Osée a donné une description importante des véritables messagers de Dieu. Qu'il s'agisse des prophètes d'autrefois ou des prédicateurs de l'Église d'aujourd'hui, il dit au verset 8, « Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. » Éphraïm était un autre nom pour le royaume du Nord, basé sur sa tribu principale. La tâche d'Osée, avec les autres prophètes, était de monter la garde sur les murs de la ville, de guetter les dangers et d'avertir le peuple lorsqu'il approchait. Les soldats du roi sont chargés de faire la sentinelle pour vérifier l'ennemi qui avance, qui attaque. Le prophète, quant à lui, guettait la venue de Dieu pour juger le péché. Et il annonçait, il avertissait. Il devait transmettre de toute urgence le message du Seigneur afin que son peuple l'entende, se répande et soit sauvé. Dans les armées aujourd'hui, les sentinelles doivent être attentives aux détails. Et l'un des pires crimes qu'un soldat puisse commettre, c'est de s'endormir, de ne pas veiller, de ne pas faire attention. La raison est évidente. Si les sentinelles manquent à leur devoir, un ennemi peut s'approcher par surprise et détruire toute l'unité, tout le monde. La situation n'était pas moins grave lorsqu'il s'agissait de ceux que Dieu avait chargés de veiller sur son peuple contre son jugement qui arrivait. La description qu'Osée fait du prophète comme d'une sentinelle exhorte les ministres de la parole de Dieu aujourd'hui à ne pas négliger les avertissements sur le péché. Ce message de sagesse est particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit de s'adresser aux inconvertis, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourtant, dans tant d'églises aujourd'hui, c'est exactement la logique inverse qui prévaut. Les messages vont se concentrer sur l'amélioration du style de vie, sur comment faire plus d'argent, sur comment je vais trouver un mari. Comment je vais avoir une réussite professionnelle? Oui, mais elles prennent trop souvent le dessus sur le besoin des pécheurs d'être avertis du jugement divin à venir. Les prédicateurs étant des sentinelles placées par Dieu au sein d'une église, leur premier devoir est d'avertir de la redoutable justice de Dieu et de proclamer le seul moyen de salut par la foi en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas par nos efforts, ni par nos propres forces, mais c'est en Jésus seul. On peut se demander, puisque Osée était la sentinelle de Dieu pour le bien du peuple, pourquoi celui-ci s'est moqué de lui et l'a menacé au lieu de se repentir? Pourquoi? La réponse se trouve au verset 7. À cause de la grandeur des iniquités de tes rébellions. À cause de la grandeur de tes iniquités. Parce que c'est ce que nous sommes, des gens iniques. Nous sommes des rebelles. Nous nous rébellons à la parole de Dieu. Nous faisons tout l'opposé de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous vivons dans le péché, alors que nous savons que ce n'est pas bien. Alors que nous savons que nous attristons le Saint-Esprit. Il n'appréciait pas la condamnation du péché parce que ils aimaient le péché. Ils aimaient le péché. Même lorsque Dieu a envoyé son propre fils Jésus-Christ, lorsque le message du jugement a été donné, le peuple a réagi en le clouant sur la croix. Comment se fait-il que de telles paroles puissent-elles être ignorées, totalement ignorées, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions? Elles sont tellement grandes, elles ont pris tellement de place, elles ont tellement endurci le cœur qu'on ne peut même plus cerner, saisir la gravité du message de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu et nos iniquités nous éloignent encore plus de sa face. C'est pas un Dieu qui prend plaisir au péché, non. C'est un Dieu qui prend plaisir à la sainteté. Mon quatrième point, le jugement final à venir. Lorsque le jugement s'abattra sur le royaume du Nord, Israël, comme ce fut bientôt le cas, la raison pour laquelle Dieu avait agi sera évidente pour tous. Osée résume la situation du peuple au verset 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. Gibéa fait référence à un massacre d'une extrême horreur qui s'est répandu dans toute la nation dans le livre des Juges au chapitre 19. Juges, chapitre 19. Et donc le fait qu'Osée compare maintenant Israël à Gibéa est une sévère mise en accusation de l'état moral de cette nation. Si une génération antérieure d'Israélites avait répondu à Gibéa avec une telle violence, que ferait Dieu maintenant? Osée répond: l'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. Le Seigneur se souviendra de leur iniquité. Mais il n'en reste pas là. Il va punir leur péché. Et lorsque nous entendons cela, nous tremblons, rien qu'en pensant au terrible jugement qu'Osée a prédit et qui s'est bientôt abattu sur ce peuple. Un grand nombre d'entre eux ont été tués. Les villes sont détruites. Des familles autrefois prospères ont été rassemblées comme des esclaves, liées par ces chaînes et conduites en exil pour une vie de corvée et une vie de pauvreté en exil. Leur identité a été éradiquer leur identité de peuple de Dieu a été éradiquée et leurs espoirs brisés. La raison de ce désastre est qu'ils ont placé leur espoir dans de vaines idoles. Ils ont placé leur espoir dans de vaines idoles, dans des choses de ce monde, dans le matériel de ce monde. Et de cette façon, ils ont offensé leur Dieu par un culte qui était corrompu et une vie de débauche, de sorte que Dieu lui-même a infligé ce jugement. Aujourd'hui, comme à l'époque d'Osée, les incrédules réagissent de deux façons à cet avertissement de jugement. L'une d'elles consiste à le traiter de fou et à se moquer des prédicateurs du jugement comme des fous. Le verset 18 de Jude affirme que jusqu'à la fin, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Il est préférable pour nous de nous repentir devant Dieu et de rechercher sa miséricorde en la personne de Jésus-Christ. Regardez la croix de Christ, où le Fils de Dieu a subi la colère de Dieu et est mort pour offrir le pardon aux pécheurs. Confesser notre culpabilité et croire en son œuvre de salut. Jude conclut en nous exhortant à continuer à croire. Dans Jude 1, il y a juste un chapitre, les versets 20 à 21. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il veut dire que lorsque Jésus viendra, et il promet qu'il viendra bientôt, dans Apocalypse 22, verset 20, vous ne recevrez pas le jugement de vos péchés, que vos péchés méritent, mais vous trouverez la miséricorde et la grâce en Jésus-Christ qui a été cloué pour vos péchés. En conclusion et application, nous avons ici un message qui est sévère. Il est sévère, il est dur, il est même brutal pour un peuple qui était élu de Dieu. C'est un rejet total. Mais il nous rappelle que la justice de Dieu envers le péché est la nécessité de nous, en tant que croyants, de nous repentir de nos fautes. Parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu qui pardonne l'iniquité. Il nous accueille même lorsque nous sommes perdus et nous revenons vers lui. Dans un cœur sincère, dans un cœur repentant. Ce message nous montre également la fidélité de Dieu dans son appel à revenir à lui. Même lorsque le péché semble avoir pris une place dominante. On ne peut pas dire que c'est trop tard. Nous pouvons toujours nous repentir. Amen, frère. De reconnaître que nous sommes des pécheurs invétérés. Nous sommes complètement dépravés. Mais nous savons qu'en lui, nous avons le pardon des péchés. Et c'est lui qui est capable et seul de pouvoir nous laver, de laver nos iniquités, afin que nous puissions devenir plus blancs que la neige. En tant que croyants, nous savons que le jugement de Dieu est toujours juste. Mais nous savons aussi que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous avons une solution au problème du péché. Cette solution est la croix de Jésus-Christ. Première application, ce passage nous rappelle que l'idolâtrie, bien que souvent perçue sous des formes différentes aujourd'hui, reste un péché grave aux yeux de Dieu. L'idolâtrie peut prendre tout type de forme. Ça peut être des choses que nous chérissons, qui ne glorifient pas Dieu, mais volontairement, nous les gardons. Volontairement, nous faisons du mal à Dieu. Le peuple d'Israël était appelé à la sainteté, à une vie de fidélité envers l'Éternel, mais ils ont cherché leur joie et leur sécurité dans des faux dieux. De même, nous, en tant que chrétiens, devons veiller à ce que notre joie et notre espérance ne soient pas placées dans des idoles modernes telles que l'argent, le pouvoir, ou même des idéologies humaines qui nous détournent complètement de Christ. Deuxième application, nous comprenons que le péché, en particulier l'idolâtrie et l'infidélité à l'alliance de Dieu, conduit toujours à des conséquences graves. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une phrase toute faite, là. Le salaire du péché, c'est vraiment la mort, selon la parole de notre Dieu. De même, nous, en tant que chrétiens, devons veiller à ce que notre joie... Non, c'est ma deuxième implication. Ouais. Cela n'est pas arbitraire de la part de Dieu, c'est une manifestation de sa justice sainte. Dieu ne tolère pas le péché. La séparation d'avec lui, symbolisée ici par l'exil, est le résultat inévitable de notre péché. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de la gravité du péché et des conséquences que cela entraîne, tant sur le plan individuel, tant sur le plan collectif aussi. Lorsqu'on devient membre d'une église, il y a tout un serment qu'on fait aussi, ensemble, à maintenir une vie sainte de prière. On ne peut pas se donner le plaisir de vivre comme on veut lorsqu'on appartient à une église locale, à vivre dans la débauche, et surtout à ne pas vouloir être redevable. C'est là où la discipline intervient. C'est pourquoi nous parlons de conséquences individuelles et collectives. Dernière application. Ce message souligne la sainteté de Dieu et la nécessité d'une repentance sincère. Pas sur le bout des lèvres, mais sincère. Nous croyons que la repentance est essentielle pour recevoir la grâce de Dieu. La repentance n'est pas simplement un regret superficiel des conséquences de nos actions, mais un changement profond de cœur, un retournement sincère vers Dieu dans la foi. Dieu, dans sa miséricorde, appelle les pécheurs à se tourner vers lui. Et Jésus-Christ, en tant que médiateur parfait, offre une grâce infinie à ceux qui se repentent véritablement et sincèrement. Que ce message, frères et sœurs, nous pousse à examiner nos vies à la lumière de l'Évangile. À rejeter toute forme d'idolâtrie et à rechercher un cœur sincèrement repentant. Le Dieu d'Osée qui juge sévèrement est aussi le Dieu de miséricorde, qui nous invite à revenir à lui dans la foi en Jésus-Christ. Que cette vérité nous nourrisse, que cette vérité nourrisse nos vies spirituelles et nous guide vers une fidélité renouvelée pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle alors que nous, nous sommes des éternels infidèles. Éternel, tu fais tellement preuve de compassion à notre égard. Tu es bon, tu es juste dans tes jugements parce que tu es un Dieu qui est saint et qui ne tolère pas le péché. Seigneur, je te prie de nous montrer la gravité de ce que nous faisons, même lorsque nous pensons que tu ne nous vois pas, Mais Seigneur, tu vois tout parce que tu es omniscient, tu es omnipotent, tu sais tout, tu vois tout. Nous te demandons pardon pour les péchés que nous nourrissons, Seigneur. Pour ces péchés qui nous cachent ta face, qui nous éloignent de ta face. Notre adoration de ce monde, notre adoration de l'argent, notre adoration d'une sexualité débridée, notre adoration des idoles qui sont des formes de bois ou du matériel. Pardon, Seigneur. Pardon, parce que nous t'avons tellement et tant de fois offensé. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Libère-nous de cette iniquité dans laquelle nous baignons par ta grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi, obéir à ta loi, nous concentrer, Seigneur, sur Christ et sur la croix qui nous donne le salut. Seigneur, donne-nous de revenir à toi dans un cœur sincère, dans un cœur repentant, et à ne pas chercher les choses de ce monde, à ne pas chercher ces choses qui nous éloignent de toi, Seigneur, mais à te chercher toi avant tout, à lire ta parole, à la méditer, à vivre une communion fraternelle, à vivre une vie sainte, Seigneur, et refléter ta gloire et être sel et lumière dans ce monde, que ce soit dans nos familles respectives, que ce soit dans notre lieu de travail, que nous faisons tout pour ta gloire éternelle, notre Dieu. Je te prie de bénir cette assemblée, de bénir notre Église, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tant de choses que tu fais au sein de cette Église, pour sa marche fidèle, Seigneur. Merci de la guider, de la garder dans le respect de tes principes et de ta loi éternelle, notre Dieu. Garde-nous de tout type d'orgueil. Donne-nous l'humilité de te servir, d'être des serviteurs éternels, notre Dieu. Gloire te soit rendue pour le sacrifice de Christ sur la croix, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est en son nom et en son seul nom que nous te prions. Amen.